Il nous faudrait d'abord visiter, et vous avez pu vous rendre compte hier que ce n'est pas facile. Vous connaissez la maison, vous, monsieur Machon ?
J'ai monté les meubles avec le fils il y a une dizaine d'années, quand ils ont emménagé. Depuis lors, eh bien, j'y suis entré deux ou trois fois pour des coups de main, depuis que le fils est parti. Madame Le Bougre a une hernie, ça l'empêche de porter lourd, et mademoiselle Louise n'est pas une Hercule.
Combien y a-t-il de chambres au premier ? Demandai-je, jugeant le terrain assez préparé.
Voyons, on monte l'escalier, on trouve une grande chambre à droite, une grande chambre à gauche. Elles ont chacune deux fenêtres sur chaque façade et elles tiennent toute la profondeur de la maison.
Ces chambres doivent être immenses, dis-je.
Surtout celle de droite qui a un grand cabinet borgne derrière. La chambre de gauche est moins grande parce que le palier de l'escalier est pris dessus et la moitié de la fenêtre éclaire la cage de l'escalier. Ces vieilles maisons sont rigolos.
Vous n'auriez pas un crayon, madame Lecan ?
Ou plutôt non, un dessin ne serait pas bien utile, fit le brave homme d'un ton confus. Je ferai le plan sur la table avec des allumettes. Voici le rez-de-chaussée, la porte. À droite, une grande pièce dans toute la profondeur. À gauche, la cuisine sur le devant et une dépense derrière. À présent, l'escalier, pas commode, et il tourne.
Lucie copia pour moi le plan du premier étage, me le piqua de points en relief, de telle sorte que toute cette topographie me devint familière. J'étais assez fier d'avoir deviné que l'espace en face de l'escalier devait être occupé par un local borgne, alcôve, placard ou cabinet de débarras. Lucie pensa qu'une reproduction de son dessin pourra aider à la compréhension de ce qui suivra.
Voilà donc le petit plan de la maison que Machon nous dessina avec des allumettes et que ma femme me refit en pointillé.
La maison a moins de fenêtres sur la façade nord. Les fenêtres de l'est et de l'ouest sont petites et irrégulières.
Au rez-de-chaussée, la maison a une porte de côté qui donne sur le verger.
Je me permis encore une question quand Prosper se leva pour partir.
Pensez-vous, lui demandai-je, qu'il serait possible d'avoir un poulailler et d'élever un porc derrière la maison ?
Un poulailler, ça existe. Madame Le Bougre a une douzaine de poules. Un porc, elle n'en tient plus depuis que son fils est en Amérique. Trop petit ménage, pas assez d'épluchures et de lavasses. Le boiton était pourri, je l'ai démonté ce printemps.
Lucie fut imprudente, car elle ajouta, comme si une chose découlait de l'autre.
Madame Le Bougre vous prend 3 litres de lait, à ce que nous avons entendu. Elle fait sans doute des petits Suisses ou des petits fromages.
J'entre pas dans ces détails, fit Prosper un peu brusquement. Elle prend 3 litres, elle les paie, ça me suffit.
Il prenait sans doute Lucie pour une de ces femmes potinières qui cherchent à savoir ce que leur voisine met dans sa marmite.
Dès que Machon fut parti, j'écrivis à mon frère, auquel d'ailleurs j'avais, suivant ma promesse, adressé quelques mots déjà la veille. Je lui donnai cette fois un peu d'espoir et le priai de venir à Garla le lendemain, mercredi, par un train du soir, de se faire remarquer le moins possible dans le trajet de la gare chez nous, et de se préparer à une aventure qui pouvait avoir ses risques. Le projet était à discuter entre nous. Je lui demandai aussi de faire un achat dont je parlerai plus tard.
Ce qui m'ennuyait énormément, c'était d'y mêler Lucie. Mais comment me serais-je passé de celle qui est mes yeux ?
Je la prévins d'avoir adressé un lit pour Henri, qui passerait probablement la nuit chez nous. Nous avons un grand divan dans le fond de la salle, qui est à la fois notre cuisine salle à manger et mon atelier.
Lucie sortit la literie nécessaire, mais ne fit aucune question.
Mon frère arriva par le train de 9 heures, comme la nuit était déjà tombée, Lucie, sur mon désir, avait préparé une petite collation.
Nous aurons à sortir très tard, tous les trois, dis-je.
Ah, quel bonheur ! S'écria-t-elle. C'est donc ce soir déjà que nous reverrons Louise.
J'avoue qu'une confiance aussi admirable, tout en me faisant chérir davantage encore ma femme, m'épouvanta. Rien n'était moins certain que le succès.
Mes suppositions pouvaient être fausses du tout au tout, et l'expédition que nous allions tenter, si elle échouait, prenait l'air d'un pur cambriolage et pouvait nous conduire, Henri et moi, tout bonnement dans la prison départementale. Je ne pouvais cacher à mon frère les risques qu'il courait. « Nous avons 3 bonnes heures devant nous, dis-je, pour nous entendre et pour que tu critiques mon idée. Si elle te paraît absolument folle, tu n'as qu'à le dire. » Nous étions assis devant la cheminée où Lucie avait mis un fagot et moi, avec un couteau pointu, je fendais des marrons pour les mettre cuire dans les cendres chaudes. J'aime toujours à avoir les doigts occupés. Quand j'ai besoin de rassembler mes idées, je fais du filet et à chaque nœud de la ficelle, il me semble qu'une déduction s'ajoute solidement à la chaîne. Je dis à mon frère « Tout d'abord, pour moi, Louise est enfermée dans la maison Le Bougre. » Nous avons découvert que sa tante, qui d'ailleurs n'est pas sa tante, mais une cousine au second degré, continue à prendre chaque jour, comme d'ordinaire, 3 litres de lait à son laitier que nous avons rencontré par hasard. Hasard providentiel, car toute ma théorie repose sur ces 3 litres de lait. Je m'arrêtai, attendant de mon frère quelques signes de dérision. Mais il dit au contraire, « Va toujours, je m'en rapporte à toi. » Donc nous admettons que Louise est séquestrée quelque part dans la maison. Le même Machon providentiel, le laitier, nous a fait un plan de la maison. Lucie, voudrais-tu faire voir ce plan à Henri ? Tu remarqueras, Henri, qu'une seule pièce de la maison n'a aucune fenêtre. C'est le grand cabinet qui ouvre sur la chambre de Madame Le Bougre. J'ai omis de dire que Prosper Machon, quand il nous fit la topographie de l'étage, nous avait indiqué la chambre de droite comme étant celle du fils, celle de gauche comme étant occupée par les 2 femmes, tante et nièce. Si l'on a quelqu'un à séquestrer, c'est dans ce cabinet tout à fait borgne qu'une prisonnière sera le plus isolée, le plus incapable de se faire entendre du dehors. Donc, en suivant toujours la ligne de mon raisonnement, c'est dans le cabinet borgne qu'il nous faut aller chercher Louise. « Allons-y tout de suite !» s'écria Henri impétueusement. « Comment t'y prendras-tu » demandai-je. « C'est bien simple, je frapperai à la porte. Madame Le Bougre ouvrira, et alors j'entre, je monte l'escalier. » À cette heure de la nuit, tu penses vraiment que Madame Le Bougre ouvrira la porte ? Elle se mettra à la fenêtre. Si tu persistes, elle criera au secours. « Eh bien, dans le cas où l'agent de ce quartier arriverait sur les lieux, je lui expliquerai tout et il me prêterait main forte. »« Mon pauvre ami, dis-je, tu te feras tout simplement arrêter, soit pour tapage nocturne, soit pour violation de domicile. D'ailleurs, suppose que Louise, qui est une petite créature timide, sensible, souffre ensuite de paraître en justice pour accuser une parente. » Essayons plutôt de la délivrer sans faire aucun scandale public. Mon plan me semble meilleur que le tien. As-tu apporté de Paris ce que je t'ai dit ? Oui, mais assurément sans y rien comprendre. Tu comprendras bientôt. À minuit, nous nous mettrons en route. Toi, Henri, tu empoches tes petits paquets. La poudre est-elle de bonne qualité ? Je suis allé chez le meilleur marchand de pyrotechnie. Bien. Moi, je porterai la grande plaque de tôle que nous plaçons devant le fourneau de cuisine quand Lucie fait du feu. J'ai entendu dire, je crois, qu'à minuit, cette ville économe éteint l'éclairage des rues extérieures. Donc, à la Villarde, il fera noir comme dans un four, ce qui favorise notre projet. Si tu comptes nous faire entrer dans la propriété Le Bougre, dit alors Lucie, je ne vois pas trop comment tu t'y prendras. La palissade sur la rue est haute et serrée. « Nous tournerons autour du terrain, répondis-je, et il y a des chances pour que derrière la maison, il y ait soit une palissade moins haute, soit un portillon ouvert. Et dans ce cas malheureux, où nous ne découvririons aucune façon d'entrer, eh bien, nous rentrerons bredouille et nous ferons une autre combine. » C'est que, tu sais, persista Lucie avec inquiétude, je ne te vois pas bien escaladant des palissades. Il t'arrivera un accident. « Vous ne trouvez pas, Henri, que c'est un peu fou, tout ça ?»« J'irai bien seul, dit-il. »« Non, mon cher, tu n'iras pas seul, déclarai-je, pour la simple raison que mon plan nécessite 2 équipes, puisque la maison a 2 portes, d'après les observations que nous avons faites avant-hier. porte d'entrée sur le devant, porte du côté est, sortie de la cuisine sur le verger. Tu surveilleras une des portes, Lucie, et moi l'autre. Si Machon n'était pas un grand bavard, je l'aurais mis du complot, mais il aurait fallu le garder à vue dès l'instant où il aurait été au courant. Tu as apporté ta torche électrique et une autre pour Lucie. Nous voilà parés à tout. Buvons une bonne tasse de café noir qui nous éclaircira les idées, mangeons un morceau et recommandons-nous à notre bonne étoile. Il était minuit quand notre petit groupe sortit de la cour avec son attirail. Notre rue était déserte. Jusqu'à la Villarde, nous ne rencontrâmes personne. Plus loin, j'entendis des pas qui venaient dans notre direction. « Va le premier, dis-je à mon frère, n'ayons pas l'air d'être ensemble. » Par bonheur, le passant attardé traversa la chaussée et prit l'autre trottoir avant de nous avoir croisés. « Nous voici rendus devant la propriété Le Bougre, » me chuchota Henri. « Tournons la palissade, fais une reconnaissance, mets le capuchon à la torche électrique et n'éclaire pas trop large. Nous te suivons. » Lucie et moi, nous marchions à pas étouffés, je sentais sous mes pieds l'herbe rare et les graviers d'un terrain vague qui montaient légèrement. De ma main droite, je suivais la palissade, je la mesurais de temps à autre. Elle était toujours aussi haute et serrée que sur la rue. Enfin, nous atteignîmes l'angle du haut. Ici, tout à coup, la palissade cessait. Il y a un petit mur, me souffla Henri qui revenait sans bruit. C'est plus commode à passer qu'une palissade, surtout pour Lucie, puisqu'on peut poser le pied au sommet. J'espère que Madame Le Bougre n'a pas de chien. Nous n'avons jamais entendu un chien, et Louise n'en a jamais parlé, n'est-ce pas, Lucie? Es-tu prête à l'escalade, ma pauvre femme? En moins de 2 minutes, nous étions tous trois de l'autre côté, car ce mur n'avait pas plus d'un mètre et demi de haut. Il était bien parsemé de quelques tessons, mais mon frère, avec sa torche électrique, trouva un endroit où Lucie put poser les pieds sans se blesser. J'avais passé la plaque de tôle à Henri avant de me hisser. Et nous étions là, sur le terrain Le Bougre, immobiles, respirant à peine, et pillant des oreilles le moindre signe d'alarme dans la maison. « Tout est bien compris, n'est-ce pas ? » fis-je à voix basse. « Tu surveilles la porte de la cuisine sur le côté. » Si Madame Le Bougre sort par là, tu entres dès qu'elle est dehors et tu tournes la clé en dedans. Ensuite, tu sais ce que tu as à faire. Lucie et moi, nous surveillerons la porte du perron. Si Madame Le Bougre sort par là, nous faisons le signal convenu, tu arrives en 4e vitesse, nous entrons tous les trois, nous fermons la porte en dedans. Trotte-toi, prépare l'illumination, le coup ne saurait rater. Alors Henri nous quitta, emportant ses munitions et la plaque de tôle. Avec Lucie, à pas de loup, je revins dans la direction de la façade. Le clair de lune aidait un peu à Lucie à éviter les obstacles, mais j'avais peur, moi, que cette clarté ne nous fît découvrir. Je savais par ma femme qu'il y avait un bouquet d'arbustes à droite du perron. « Cachons-nous derrière les arbustes, » dis-je à Lucie. Elle poussa une petite exclamation. « Voilà ces bengales qui s'allument, » fit-elle à mon oreille. « Quelle lueur, rouge mêlée de vert et de blanc. Ça augmente. Voilà les boules lance-flammes qui commencent. On dirait de vraies flammes. » La voix d'Henri s'éleva au même instant, rauque, bien déguisée. « Au feu ! Au feu ! Au feu ! » !»« Pourvu qu'il ait mis assez de poudre pour que ça dure, » fis-je. Je lui avais bien recommandé d'arranger les bengales par petits tas, avec des bouts de fil à poudre pour les faire communiquer et qu'ils s'enflamment l'un après l'autre. Un volet s'ouvrit tout à coup en grinçant, vint claquer contre la muraille. Au son, je saisis que c'était une fenêtre du côté est, probablement au-dessus de la cuisine. Henri cria encore une fois « Au secours !» Puis Lucie le vit se couler dans l'ombre vers la porte du côté, car elle ne pouvait se tenir tranquille, et elle s'approcha de l'angle de la maison pour suivre les événements. On entendit une clé tourner dans la porte de cuisine, cette porte s'ouvrit. « Je vois Madame Le Bougre sur le seuil, » me chuchota Lucie. « Elle sort, elle court vers la lueur. Dans une demi-minute, elle verra ce que c'est. Ah, j'ai vu passer Henri, il est entré, écoute !» Distinctement, j'entendis qu'on refermait la porte, qu'on tournait la clé à l'intérieur.
« Bon, le tour est joué, m'écriai-je. »
Mon frère savait ce qu'il lui restait à faire. Il n'avait qu'à sortir de la cuisine, monter l'escalier, ouvrir la porte de droite, pénétrer dans la chambre de Madame Le Bougre et là, dans le fond, chercher la porte du grand cabinet, l'enfoncer si c'était nécessaire, rassurer Louise qui s'affolait sans doute, enfermée et entendant crier au feu. Henri n'avait même pas à s'inquiéter de Madame Le Bougre qui, étant sortie de la forteresse, n'y pouvait rentrer qu'avec notre permission. Lucie se mit à rire à haute voix, tant elle était ravie.
« Oh, mon François, tu es un génie » s'écria-t-elle.
Avec une petite femme qui m'admire aussi généreusement, j'ai bien quelques mérites à rester modeste. Mais nous faisions trop de bruit sans y penser. Madame Le Bougre, découvrant que quelqu'un sans doute lui jouait un mauvais tour et que déjà l'illumination s'éteignait, revenait à grands pas vers sa porte de cuisine, secouait la poignée de la serrure. Elle nous entendit chuchoter derrière l'angle tout proche, elle se précipita sur nous. Comme nous avions quitté notre abri d'arbustes, nous étions, je pense, en plein éclairage de la lune, contre la muraille.
« Au voleur ! Au voleur ! » hurla-t-elle, les griffes en avant.
Elle me saisit par le revers de mon veston, tandis qu'elle agrippait aussi ma pauvre Lucie, qui fit plaintivement
« Ah non, ne déchirez pas ma jaquette, vous en voulez décidément à mon costume. Avant-hier, c'était ma robe. »«
Ah, c'est vous, Madame Le Bougre, » fis-je comme si nous nous rencontrions au cours d'une promenade. « Bonsoir, Madame Le Bougre. Mais oui, c'est nous, vous nous avez assez tâtés comme ça. » En même temps, je lui saisissais les deux poignets et il ne me fut pas difficile de lui faire lâcher prise. Elle respira profondément et fit
« Ah, ce n'est que vous, l'aveugle et sa femme. Qu'est-ce que vous faites ici au milieu de la nuit ?»«
Nous venons prendre des nouvelles de Mademoiselle Louise, » répondis-je. Il est probable que le cri « au feu » lui avait trouvé l'esprit un moment, car elle restait là à ne rien dire. Je l'entendais souffler.
C'est vous qui m'avez fait des feux de Bengale dans mon verger ?
Demanda-t-elle, comme si elle retrouvait la suite de ses idées.
Vous voyez bien que ce n'est pas nous, puisque nous sommes ici.
Alors, qui est-ce qui a crié au feu ? Ça, Madame Le Bougre, ce sera à vous de le découvrir. Mais veuillez répondre à notre question au lieu de nous en poser d'autres. Où est Mademoiselle Louise ? Savez-vous enfin son adresse ?
Oui, certainement, mais je ne suis pas forcée de vous la donner.
Bien inutile d'ailleurs, puisque nous la savons, dit Lucie.
Comment vous la savez ?
Oh, c'est très simple. Louise est dans votre maison, elle n'en a pas bougé. Il y eut un petit intervalle de silence, puis Madame Le Bougre répéta :
Dans ma maison ? Vous pensez que Louise est dans ma maison ?
La stupéfaction que sa voix exprimait était ou sincère ou très bien jouée. Se pouvait-il que je me fusse trompé absolument ? Je me sentis un frisson dans le dos. Mais alors ? Alors ? Henri, en cette minute même, allait et venait dans cette maison où il avait pénétré, sans effraction, il est vrai, mais en pleine violation de domicile, après avoir risqué d'alarmer le quartier par une simulation d'incendie, et peut-être était-il occupé à enfoncer des portes, peut-être s'affolait-il à ne pas trouver celle qu'il cherchait.
Nous insistons pour avoir l'adresse de Louise, repris-je un peu au hasard, car j'étais fort troublé.
En aucun temps, je ne suis très sûr de moi, et dans mes diverses enquêtes, comme vous l'avez vu, je suis inquiet jusqu'au dénouement.
Louise est chez son tuteur, puisque vous voulez absolument le savoir. Répondit Madame Le Bougre avec une certaine bonne volonté. Elle m'a écrit. J'ai reçu la lettre ce matin. Je serai allée demain vous le dire.
Vraiment, dit Lucie, c'est beaucoup de bonté. Vous n'étiez pas si bien disposée lundi.
Bien oui, mais j'ai réfléchi que si j'ai l'air de cacher l'adresse de Louise, ça pourra paraître singulier.
Très singulier en effet, dis-je. Comme cela, son tuteur, M. Régimont, demeure à Melun, rue de la République, 4.
Lucie me poussa du coude. Ce petit signe me rendit attentif et, ma mémoire se mettant à fonctionner, je me rappelai que Louise nous avait dit un jour « Mon tuteur, c'est loin, en Calvados. » Il paraît que Lucie s'en souvenait également. Un peu d'assurance me revint. Puisque Madame Le Bougre mentait pour nous dérouter, c'est que mes déductions étaient justes. Louise était dans la maison. Il devenait donc inutile de continuer à causer pour ne rien dire. Je me tus, tendant l'oreille avec anxiété, vers le grand silence des fenêtres et de tout le logis. Rien. Pas un bruit de porte, de voix, de pas. Mais subitement, un petit grincement de clé qui tourne. Madame Le Bougre eut un brusque mouvement. « Qu'est-ce que c'est ? » fit-elle. « On entre dans ma cuisine. » « Je ne crois pas, on en sort plutôt, dis-je. » Elle se précipita. Lucie me prit le bras et m'entraîna du même côté. « Oh mon Dieu !» fit-elle. « Voilà Henri, tout seul. » La voix de Madame Le Bougre, grinçante, furieuse, s'éleva, mais celle d'Henri la domina. « Taisez-vous, misérable! Qu'avez-vous fait de Louise? L'avez-vous assassinée ?»« Je ne l'ai pas trouvée où tu pensais, » fit Henri en s'approchant de moi et me prenant par le bras. J'ai ouvert la porte du grand cabinet, la clé était dans la serrure. J'ai éclairé tous les coins, il est vide. C'est-à-dire qu'il est rempli de caisses, de boîtes, de vêtements. Mais Louise n'y est pas. J'ai appelé, elle n'a pas répondu. « Vous, taisez-vous » fit-il de nouveau, comme Madame Le Bougre se remettait à l'injurier. En cette minute, Lucie me quittait et je l'entendais courir comme un trait dans la direction de la porte de côté. Elle revint un instant après. « Votre idée, Madame Le Bougre, fit-elle ironiquement, était de vite rentrer dans la maison et de vous y enfermer. C'est pourquoi je suis allée retirer la clé. » Lucie avait donc saisi une indication sur le visage ou dans un geste de notre ennemi. Tant de choses m'échappent à moi, forcément. Je ne serai jamais un détective à toute épreuve. Lucie poursuivit. « Notre conversation fait trop de bruit. Entrons dans la cuisine, nous y serons beaucoup mieux. » En ce moment, je faisais un petit raisonnement. Madame Le Bougre comprend maintenant notre complot, feu de Bengale, alarme pour la faire sortir. Recherche d'Henri dans la maison. Nous sommes dans notre tort, absolument. Elle a tout ce qu'il faut pour porter plainte contre nous. Ce qu'elle doit faire logiquement, c'est de crier à son tour, d'appeler un agent, de nous faire arrêter tous les trois. Si elle fait cela, je suis fixée. Elle a bonne conscience. Louise n'est pas dans la maison. Si elle ne le fait pas, alors tout n'est pas perdu, mes déductions tiennent encore. » Au bout d'un instant, Madame Le Bougre prononça. « Vous avez raison, il n'est pas nécessaire d'ameuter toute la ville. Allez-vous-en chez vous et fichez-moi la paix. »« Ah non, pas ainsi, répliquai-je. Vous êtes trop aimable. Mon frère s'est introduit nuitamment dans votre maison, vous devez le faire arrêter. Et faites-nous arrêter également, ma femme et moi, car nous allons entrer dans votre cuisine, de gré ou de force. » Ce que nous fîmes immédiatement, et Madame Le Bougre nous suivit, probablement ahurie. Je dis à Lucie à l'oreille, « Fais-moi le plaisir de passer devant la maison et de compter combien tu feras de pas bien égaux depuis l'angle de la maison jusqu'au bout de la porte d'entrée. » Et quand elle fut sortie, je dis à Henri, « Je serai bien aise de monter là-haut et de faire aussi ma petite investigation dès que Lucie m'aura apporté un renseignement. » Lucie rentra et me dit à voix basse, « 16 pas !» Nous sortîmes alors tous trois dans une petite pièce qui communiquait avec la cuisine et qui ouvrait ensuite sur le vestibule. Quand nous fûmes au pied de l'escalier, Madame Le Bougre voulait nous barrer les marches. Je lui dis de nouveau, « « Mais appelez donc la police, madame !» Elle se contenta de nous injurier tout en montant avec nous. Quand je me sentis sur le palier, je dis à ma femme, « Tu compteras de nouveau tes pas depuis le coin de la chambre jusqu'au fond du cabinet où sont les caisses et les vêtements. Compte aussi exactement que possible. » Henri avait ouvert la porte de la chambre, il me prit le bras pendant que Lucie me quittait. Je l'entendais ouvrir une autre porte, celle du cabinet, Elle y entra.
« Éclaire-toi avec ta torche électrique, lui criai-je, et va bien jusqu'au fond. Combien de pas ?
13.
Donc 3 de moins que d'après la façade de la maison. Bon, ça va bien, je suis fixé. À présent, Henri, entrons tous deux dans ce réduit. Y a-t-il des vêtements accrochés sur la paroi du fond ?
Il y en a plusieurs.
Enlève-les et examine bien soigneusement la paroi. Tu trouveras une porte immanquablement. Mais cogne un peu d'abord et appelle Louise.
Je l'ai déjà appelée quand je suis montée la première fois.
C'est égal, appelle de nouveau et frappe très fort.
J'entendis qu'on froissait des vêtements, qu'on les jetait à terre et Madame Le Bougre protesta.
Mes robes, vous n'avez pas le droit de les toucher.
Alors enlevez-les vous-même, fit Lucie.
« Vois-tu une porte, une serrure ? » demandai-je à mon frère avec impatience.
« Non, il n'y a rien qu'une paroi de bois avec des patères. »
Je frappai moi-même à grands coups.
« Louise ! Louise ! » appelai-je.
J'appliquai mon oreille à la planche. J'entendis un son, une sorte de plainte. Henri l'entendit comme moi. Il se précipita contre la cloison de tout son poids.
« Louise ! Louise ! » cria-t-il.
Et ce fut alors la voix de Louise qui répondit
« Au secours ! Au secours ! »
« Où êtes-vous ? » hurla mon frère comme un désespéré.
« Ici, de ce côté, Henri, au secours ! »
« Où est la porte ? »
« Dans l'autre chambre !»
C'était bien simple. Le réduit était partagé en deux sortes de grandes armoires dos à dos. L'une donnait sur la chambre de Madame Le Bougre, où nous étions entrés, tandis que le fond, l'autre partie, avait sa porte dans la chambre qui se trouve à gauche, la chambre du fils Le Bougre, quand il est à la maison.
Henri se précipita vers le palier, je le suivis avec Lucie. Nous entrâmes dans l'autre chambre.
« Vois-tu la porte de l'armoire ? » demandai-je anxieusement.
« Oui, je la vois. Il n'y a pas de clé. Je vais l'enfoncer. »«
Je vous défends d'enfoncer ma porte !» cria Madame Le Bougre sur nos talons.
« Ouvrez-la, si vous ne voulez pas qu'on l'enfonce !»
La voix de Louise se fit entendre de nouveau, tout près cette fois. On devinait que la pauvre petite n'était plus séparée de nous que par l'épaisseur d'une planche. Henri donna dans la porte un coup d'épaule formidable, quelque chose craqua. Alors Madame Le Bougre se décida.
« Attends que me casser la serrure, j'aime mieux ouvrir, » fit-elle.
J'entendis tinter un trousseau de clés, l'une d'elles grinça, tourna. Lucie me dit plus tard que le visage de Louise, quand on l'aperçut à la lueur de la torche électrique d'Henri, était blanc comme celui d'un fantôme, avec des yeux immenses qui semblaient un peu fous.
« Ma chérie, ma pauvre petite chérie !» murmurait Henri dans une sorte de sanglot.
« Oui, emportez-la, fit Lucie, tout de suite, chez nous. »
Madame Le Bougre essaya des explications confuses, puis des menaces, mais aucun de nous n'y fit attention. Nous descendîmes l'escalier, nous sortîmes.
« Pourra-t-elle marcher ? » demandai-je à Lucie à voix basse.
Henri la soutient, la porte à peu près. L'air lui fera du bien. Elle a dû essayer de se vêtir quand elle a entendu crier au feu. Mais elle n'y est pas arrivée complètement. Elle n'a que des pantoufles sur ses pieds nus, elle est en peignoir, ses cheveux sont défaits. Si nous rencontrons quelqu'un, nous serons bien ennuyés.
Par bonheur, la petite ville était solidement endormie, tous les bons bourgeois rentraient chez eux. Il était 1 heure du matin. Je fus étonné qu'une entreprise aussi considérable ait pu s'effectuer en moins de 60 minutes. À peine fûmes-nous rentrés que ma femme emmena Louise dans notre chambre à coucher et Henri alluma du feu dans la cuisinière pour nous chauffer à tous du bouillon. J'essayai de trouver des assiettes dans le buffet, d'étendre la nappe sur la table, mais j'étais tellement troublé par une émotion de joie que je ne me repérais plus entre nos meubles. Mon frère quittait à toute minute son occupation pour venir à moi, me serrer dans ses bras et me dire « C'est à toi que je la dois, c'est toi qui me l'as retrouvée !»
J'avais éprouvé tant de craintes, tant de doutes au sujet de mon plan, que je n'étais pas encore tout à fait sûr de mon raisonnement, et je me disais « Le hasard est pour beaucoup dans ce succès ». Enfin, les deux femmes nous rejoignirent, et tout à coup, je sentis Louise à mon cou, ses lèvres sur ma joue.
« Merci, merci !» faisait-elle, toute secouée de larmes.
Naturellement, je compris bien qu'elle m'embrassait ainsi, faute d'oser le faire publiquement à son fiancé, et j'imagine qu'Henri me regardait d'un œil étonné et un peu envieux.
Je l'ai habillée avec mes affaires, elle n'aura pas froid, dit Lucie, toujours pratique et songeante au nécessaire.
Elle dormira cette nuit avec moi dans notre chambre, et vous, les deux hommes, vous vous arrangerez sur le divan qui est assez large.
Oh, quelle bonne odeur de bouillon, dit Louise d'un accent heureux. Figurez-vous que tout ce temps, je n'ai mangé que du pain et du lait. J'en ai le dégoût. Si ma tante avait osé, elle m'aurait mise au pain et à l'eau pour me réduire plus vite, mais tout de même, elle avait peur que je tombe malade.
Nous ne comprenons pas encore tout à fait, dis-je, pour quelle raison elle vous a séquestré.
Et moi, je ne comprends pas du tout comment vous avez fait pour me découvrir, répondit-elle. Ah, ce réduit, pas de fenêtre, impossible de me faire entendre dehors, et de l'air seulement quand on ouvrait la porte. Mais vous savez, j'ai plus de volonté que ma tante ne croyait. Je serais morte, oui, mais je n'aurais pas cédé. Oh, ce bon bouillon!
Lucie mettait sur la table de quoi faire un vrai petit réveillon. Nous parlions tous à la fois. Lucie finit par s'écrier en riant.
« L'un après l'autre, messieurs et dames. Louise, dites-nous votre histoire d'abord et François nous dira la sienne ensuite. »«
Mon histoire n'est pas longue, » fit Louise, dont la voix par instant trahissait sa faiblesse et sa fatigue. Le jour après qu'Henri a parlé à ma tante pour lui dire ses intentions, le lundi matin, ma tante m'a attiré dans ce réduit qui est une sorte de cabinet, soi-disant pour lui trier des morceaux d'étoffe qui étaient là, plein une caisse, et tout à coup, elle m'y a enfermé. De derrière la porte, elle m'a dit que je n'en sortirais qu'après avoir juré d'épouser mon cousin, qu'elle lui avait télégraphié de revenir, qu'il serait là dans une quinzaine de jours et qu'à eux deux, ils sauraient bien venir à bout de ma mauvaise tête. Vous imaginez les heures que j'ai passées là-dedans? C'était noir, ça sentait la souris. Ma tante venait trois ou quatre fois, elle m'avait installé une sorte de ménage de prisonnière, elle m'apportait du lait et du pain et me disait « C'est encore trop bon pour une méchante mule comme toi. Qu'est-ce que tu as contre mon fils ?» Alors je discutais pour passer le temps.
« Et vous n'essayez pas de vous sauver pendant que la porte était ouverte ?»
Ma tante se tenait sur le seuil, bien assise carrément en travers, avec ses pieds contre le linteau d'un côté et son dos de l'autre. J'ai essayé une fois de la bousculer.
Pauvre petite mauviette, fit Henri avec attendrissement.
Vous savez, si ma tante est lourde et forte, elle a des bras de fer. Non, de cette façon, c'était inutile. De plus, je crois bien qu'elle mettait quelque chose dans mon lait pour me faire dormir. Je n'avais plus d'espoir de m'échapper, mais quand Michel serait arrivé et qu'il aurait voulu me conduire à la mairie pour le mariage, j'aurais fait un esclandre dans la ville.
« Ma pauvre petite, dis-je, on vous y aurait menée à moitié inconsciente, sous l'influence d'un narcotique, très probablement. »
« Et vous êtes venue me sauver !» s'écria Louise dans une exaltation de bonheur. « C'est comme un rêve d'être ici, au milieu de vous, en sûreté. Qu'est-ce qui vous a fait me trouver? Ma tante m'assurait que vous me cherchiez à Paris. Elle vous a dit que je m'étais enfui de sa maison. Elle me tourmentait ainsi.
« À ton tour, François, » dit Lucie.
« Je vois bien, dis-je, qu'en partant de ces 3 litres de lait, j'étais sur la bonne voie. Quelqu'un devait boire ce lait, c'était forcé. » Nous avions un plan de la maison obtenu par notre roublardise d'un voisin communicatif. Vous ne pouviez être caché que dans le réduit qui ouvre sur la chambre de Madame Le Bougre. Mais ce que j'ignorais, c'est que ce réduit était partagé en deux et quand Henri vous a cherché dans le cabinet du côté droit de l'escalier, il ne vous a pas trouvé. Mon projet était de faire sortir Madame Le Bougre de sa maison à une heure tardive et de nous introduire dans la place pendant qu'elle était dehors. Dans ce but, Henri s'est procuré des feux de Bengale et des boules lance-flammes et il les a allumés dans le verger, puis il a crié au feu.
« C'est ce que j'ai entendu !» s'exclama Louise. « Alors, imaginez ma frayeur. La maison brûlait et j'étais enfermée. J'ai d'abord appelé ma tante comme une folle et en même temps j'essayais de m'habiller. Mais je crois que j'ai dû perdre connaissance. La peur, et puis j'étais si peu nourrie depuis 10 jours et sans doute une drogue qui m'engourdissait encore. J'ai dû tomber par terre, je ne me souviens plus. »
« Vous ne m'avez pas entendu vous appeler ?» fit mon frère.
« Mais si, j'ai répondu. »«
Non, dis-je, vous n'avez pas répondu la première fois. » Henri, ne trouvant personne dans le réduit, est redescendu vers nous, désespéré. Nous retenions Madame Le Bougre en conversation avec nous. Alors j'ai eu une idée. J'ai prié ma femme de compter les pas de la façade qui correspondait, pensais-je, à la longueur de la chambre de Madame Le Bougre, augmentée de la longueur du réduit. Elle en trouva 16. Mais au premier étage, elle n'en compta que 13, ce qui prouvait que notre espace de 3 pas s'étendait derrière le réduit jusqu'à la chambre du fils. Le rébus étant déchiffré, nous n'avons plus eu qu'à passer le palier, à entrer dans la chambre ouest et à chercher la porte de la seconde armoire.
« Je voudrais savoir, » s'exclama Lucie, toujours prête à m'admirer, « ce qui est bien encourageant pour moi, vous l'avouerez, comment l'idée était venue de me faire compter les pas ?»«
Comment les idées viennent, ça, on ne peut guère le dire. Madame Le Bougre venait de nous faire un mensonge en nous donnant d'une adresse fausse. C'est toi-même, Lucie, qui m'as fait remarquer, par un petit coup de coude, que l'adresse était fausse. » Cela confirmait mon opinion que Louise n'était pas partie, qu'elle était dans la maison. Henri ne l'avait pas trouvée dans le réduit, mais ce réduit pouvait avoir un double fond. J'ai vu, pour ainsi dire, ce double fond derrière la première armoire et Louise dedans. J'ai vu, pour ainsi dire, ce double fond derrière la première armoire et Louise dedans. C'était la seule façon d'expliquer la largeur de 3 pas qui nous manquait. Ma pauvre petite Louise, vous étiez probablement dans une sorte d'évanouissement quand Henri vous a appelé. Vous en serez sortie progressivement et vous avez entendu mes coups de poing dans la cloison et mes appels. C'est vous alors qui nous avez guidés en nous indiquant d'entrer par l'autre chambre.
J'ai dû avoir l'esprit troublé un moment, fit Louise d'une voix tremblante. Il me semblait entendre des anges qui m'appelaient. Et je me suis dit, ça y est, je suis morte, je suis en paradis. En même temps, elle éclatait d'un rire nerveux, puis elle eut un accès de sanglots. Lucie la calma de son mieux, puis l'emmena pour la mettre au lit. Elle fut assez malade pendant quelques jours, car le régime du lait mêlé d'un narcotique lui avait détraqué l'estomac et les nerfs. Lucie la soigna. Henri vint passer toutes ses soirées avec nous, ce qui était pour la pauvre petite, encore apeurée, le meilleur calmant. Le mariage n'alla pas tout seul, Louise étant encore mineure. Madame Le Bougre menaça d'opposition, et quand son gros Michel, qui voguait sur l'Atlantique au moment où nous délivrions Louise, arriva, il vint chez nous faire une scène tout à fait déplaisante. Louise, alors, montra le vrai caractère courageux caché sous sa timidité. « Je vais de ce pas, lui déclara-t-elle, chez le procureur de la République, déposer une plainte contre votre mère pour séquestration et violence. Mes témoins sont ici, ceux qui m'ont délivré. » Aussitôt, Michel et sa mère en filaient doux. L'autre tuteur, M. Régimont, ne s'intéressait aucunement à sa pupille. Il envoyait un consentement légalisé sans prendre d'informations. Louise aurait pu épouser Michel ou tout autre voyou sans qu'il s'en émût. Henri tint quelque temps les Le Bougre sous la menace de leur faire rendre leur compte de tutelle. Mais quand le mariage fut accompli, les deux jeunes époux renoncèrent à toute autre démarche, ce qui, d'ailleurs, n'eût occasionné qu'ennui et frais de justice. Le petit patrimoine de Louise avait dû être légumé depuis longtemps par Michel, qui avait tout d'un gibier de potence et qui retourna se faire pendre en Amérique. Madame Le Bougre vendit sa maison, qui était hypothéquée jusqu'aux tuiles.
elle paya ses dettes dans la ville et partit pour une destination inconnue que nul de nous ne désire découvrir. Le plus comique, c'est que ce fut Henri qui acheta la maison et il acheta pour moi. Il avait des économies, insuffisantes à la vérité, mais il garda une hypothèque sur l'immeuble et il fut entendu que je paierais comme loyer l'intérêt de cette hypothèque. Nous avons trouvé de bons sous-locataires pour les chambres dont nous n'avons pas besoin. De cette façon, le loyer est couvert. Les pièces du rez-de-chaussée nous suffisent, c'est commode pour moi qui sors ainsi directement dans le jardin, dans le verger, dans la cour de derrière. Nous sommes presque à la campagne, Lucie respire le bon air, elle a des poules, j'ai des lapins, nous venons d'acheter 3 porcelets. Machon s'occupe du jardin potager, Lucie ne fait plus de couture et sa santé s'améliore de mois en mois. Dire que tout ce bonheur nous est venu simplement de 3 litres de lait. Dire que tout ce bonheur nous est venu simplement de 3 litres de lait.